Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2 épisode 29. J'espère que vous êtes bien réveillés, bien chaud, chaud patate. Pour une simple et bonne raison, c'est que le Festival de Cannes commence maintenant. Hein, on est mercredi.
Oui, tout à fait.
On est mercredi. Ah, mais Thibaut est là, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas sur une plage là? Non, pas encore parti. On enregistre en effet cet épisode un peu avant le festival, mais embargo oblige, on ne peut pas...
Et le prochain aussi d'ailleurs.
Hein. Oui, le prochain aussi.
Épisodes, là, tant qu'on y est. Boum!
Parce que je ne suis pas au Festival de Cannes cette année, malheureusement.
Mais non, parce que... Félicitations,
Guillaume. Voilà, j'ai un petit garçon. Donc voilà, petit Oscar.
Ah, c'est pas Marcel.
Maurice. Pour le prochain, tu vois. Comme ça, on fait des trucs sympas. Ça fait un peu sud de la France. Ouais. Mais bon, soit. Parlons du sud de la France. Toi, tu y seras bientôt. Tu pars demain, d'ailleurs, pour aller voir plein de films et nous en parler dans le podcast, mais à ton retour. Et aussi sur cinenews.be, puisque tu vas écrire des articles pour notre site partenaire. Vous connaissez la chanson. C'est pas la première fois qu'on travaille avec eux. Donc voilà, il y aura du contenu à voir, les articles de Thibaut, les sauts d'humeur,
et des interviews,
les coups de gueule.
J'ai déjà quelques interviews.
T'as déjà quelques confirmées là? DiCaprio avec Tarantino? Non, malheureusement.
Voilà, ça va être un peu compliqué. Mais j'ai un certain réalisateur français qui est aussi DJ à 16 heures perdues.
Allez.
Ouais.
Quentin.
Et l'acteur, un certain Quentin D.
Quentin D.
Et son acteur principal, Jean Du.
Ouais. Jean Du, ok. Voilà. Les deux gars qui ont des private jokes. Jean Dujardin et Quentin Dupieux, du coup.
Exactement.
C'est pour son film. Quel film encore
Le Dain. Qui fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs.
Voilà. Rien que
je n'ai pas encore vu.
Mais c'est ça aussi la journée du Festival de Cannes. C'est vrai qu'au journal télévisé ou quoi, vous allez voir des extraits des films qui passent. On voit souvent les films qui sont en compétition officielle. Sélection officielle, on va dire, mais il y a plein d'autres sélections à Cannes avec des films super intéressants qu'on voit un peu moins dans la presse, on va dire, mais qui sont tout aussi surprenants.
Bah ouais.
Et qui valent le détour.
Je sais pas si t'as vu, mais ils ont ajouté une projo de Rambo remasterisée avec Stallone.
Oui,
ça va être
oui,
fou.
Ça va être génial. C'est vrai,
des images de Rambo 5.
Ça va être quelque chose. Du coup, dans cet épisode-ci, on va parler de Douleur et Gloire, Dolor y Gloria, qui est un film de Pedro Almodovar qui sera au Festival de Cannes. Est-ce que c'est le film d'ouverture?
Non.
Non.
Non, non, c'est Jim Jarmusch qui fait l'ouverture. Mais Pedro Almodovar, donc son film passe mercredi, je pense.
Oui, c'est ça.
Et il sort dans nos salles mercredi ou vendredi, quelque chose comme ça.
Exactement. C'est pour ça que je posais la question, parce que je me suis dit, tiens, si c'est...
Il est en compétition. Il faut le préciser.
S'il sort déjà maintenant, c'est qu'à mon avis, il va être diffusé très très rapidement dans le festival. Deuxième film dont on va parler, c'est Long Shot, ou bien Séduis-moi si tu peux. Non, c'est pas une suite de Arrête-moi si tu peux. C'est avec Seth Rogen et Charlize Theron.
Exactement.
Un film de Jonathan Levin, celui qui avait fait 50-50.
Le poteau de
Warm Bodies. Plein de films un peu comédie romantique, avec un peu d'humour, body movie, tu vois.
Il a fait le truc de Noël aussi, je pense.
Ouais. The Night Before Christmas,
c'est ça. Exactement.
Et puis, troisième film, c'est le film Sunset. Film Sunset dont on parlera en clôture des missions. Un film sur l'Empire austro-hongrois, un truc un peu... tu souris.
Vas-y.
Pour moi, j'ai pas du tout dit chiant, mais un film qui va nous transporter en 1913.
C'est sûr.
Et donc voilà. Et donc c'est le but, c'est un film.
Qui était à la Mostra de Venise.
Décidément, à chaque fois on en parle, à chaque fois on fait la même vanne, mais c'est vrai que les films des faits. Mostra de Venise, ça date de septembre, quoi. Donc il est temps que ça se clôture tout ça. Certes, on commence tout de suite par le box-office, parce qu'on a les chiffres pour cet épisode-ci. Avec des sorties, attention, mais caviar. Cinquième film, c'est Hellboy, qui a fait un tollé pas possible, mais 180 000 entrées quand même en France pour sa première semaine, donc c'est pas bon.
T'as pas des chiffres plus récents, ça, que ça, en fait ?
C'est les prévisions, ça. C'est les prévisions pour cette semaine, ouais.
Non, parce que, attends, là, je vais déjà sauter directement au numéro 2. Endgame, là, je vois qu'ils mettent 870 000 entrées, mais il a déjà passé les...
Les 6 en France ?
Les demi... il a déjà passé les 6. Ok, d'accord, il y a tout ça.
Donc,
oh là là.
Donc c'est 180 000 entrées pour Hellboy. Les crevettes pailletées, qui est un peu le grand bain version LGBT. Les crevettes pailletées, 300 000 entrées pour ce film-là en France. Nous finirons ensemble la suite des petits mouchoirs. Tu l'as vu ou pas ?
Non.
Non ? Moi non plus.
Je n'avais déjà pas vu Les Petits Mouchoirs.
J'ai revu Les Petits Mouchoirs qui passaient sur la RTBF il y a une semaine. Et mon avis n'a pas changé sur ce film, c'est très chiant. nous finirons ensemble, donc 755 000 entrées, donc ça fait plus de 2 millions d'entrées au total pour ce film-là, donc quand même des bonnes performances pour le film de Guillaume Canet. Deuxième, c'est Avengers Endgame, 870 000 entrées cette semaine-ci. Par contre, un total qui va bientôt dépasser les 6 millions d'entrées en France.
Oui, c'est déjà le plus gros succès de l'année.
Oui, et puis il est en phase de dépasser Avatar, en premier film.
Ouais, alors il faut faire attention. Parce que
il est presque, hein.
Techniquement... Si on parle juste de l'argent amassé, il va dépasser Avatar. Il y a, oui, y a pas de
en deux semaines, il a déjà dépassé Titanic.
Mais cela dit, si tu le fais avec... si tu tiens compte de l'inflation, il est toujours derrière Infinity War. Donc,
Il y a une telle inflation entre les deux.
Bah, faut croire.
Oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la crise.
Tu payes ton film en 3D, machin. Si tu payes ton ticket 15 balles, c'est clair que ça va plus vite.
Et le premier film en France, et ça c'est un peu, ça m'étonne parce que je pensais pas qu'il allait être premier, Pokémon Détective Pikachu, 890 000 entrées pour sa première semaine en France, autant vous dire que c'est assez étonnant.
J'ai pas envie de voir ce film.
Tu as eu des échos, quelqu'un t'en a un peu parlé ou...
Non, j'ai pas, enfin si j'ai vu des échos mais je t'avoue que je sais plus trop, ce film ne m'emballe absolument pas.
Bon.
Pourtant c'est un grand fan de Pokémon qui parle, c'est toute ma jeunesse mais là...
Vraiment, bah, Pikachu en détective Sherlock Holmes, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué.
Ce qu'il fume à Hollywood, faut arrêter.
Bah, c'est, oui, Ryan Reynolds, voilà. Si dans le projet, en général, ça peut passer un truc loufoque. Donc, Douleur et Gloire, film de Pedro Almodovar, qui sera donc au Festival de Cannes avec Antonio Banderas, hein, la paire. C'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Certainement pas. Et c'est vrai que Pedro Almodovar, c'est un peu un habitué du Festival de Cannes. Hein. Il avait été au Festival de Cannes avec Julieta. Il y avait aussi Le Diable qui m'habite.
La Piel que habito, tu veux dire?
La Piel que habito, c'est ouais. Ça c'est en français, c'est ça le titre.
Ils ont traduit ça pas
ouais, ouais, je pense que c'est ça. Le Diable qui m'habite, ouais.
T'es sûr?
Peut-être que vous me corrigez au coin dans les commentaires, mais...
Littéralement, c'est-à-dire la peau que j'habite, mais...
C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Un des deux. Je ne sais
bon,
plus.
Bon,
soit. Des films, en tout cas, qui souvent sont dans les petits papiers de Thierry Frémaux et compagnie. Très régulièrement.
C'est un abonné.
Il a son siège.
Il y a pas de. Mais c'est pas une mauvaise chose les abonnés. Faut pas,
non, pas,
pas
du tout parce
que
en général c'est souvent des films intéressants et c'est vrai qu'il a un palmarès quand même. Il a rarement déçu. Il a fait quelques films moins bons, ça c'est sûr, mais il a pas fait de bouse pour autant. Et voilà ce film qui va être un film un peu méta, hein, pour les amis réalisateurs et cinéastes, puisqu'on va parler d'un réalisateur qui ne peut plus tourner, en tout cas il en a l'incapacité de tourner, et donc le film va être un peu une réflexion sur son travail, les années 60, les années 80, etc. On va un peu parcourir la vie de ce personnage. Et donc voilà, je te laisse la parole Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de Douleur et Gloire, et surtout de ce thème quand même très 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 spécifique pour un festival de Cannes?
J'en ai pensé du bien. Voilà.
C'est bien, super, bon voilà. Vous avez écouté Cinécast, on se dit à la semaine prochaine.
Non, en fait, le truc avec Pedro Almodovar, c'est que c'est souvent très bien, parfois c'est très mauvais. Les Amants Passagers, c'était horrible. C'était vraiment très, très pénible.
Je viens de dire que sa filmo était plutôt bonne en général.
Oui, mais dans l'ensemble, elle est plutôt bonne. C'est ça. Il y a un niveau qui se maintient bien. Et puis parfois, il te fait des petites pépites. La Mala Education, Bolbert, Les Étreintes Brisées aussi. Donc voilà. Et je trouve que Dolor y Gloria, ce nouveau film, rejoint plutôt ce panier.
Ah, donc le haut du panier.
Dans, plutôt le top d'Almodovar. Ce qui est très particulier ici avec Dolor y Gloria, effectivement, c'est qu'on parle clairement de cinéma, d'un réalisateur qui n'est pas vraiment à la retraite, mais il a tellement mal partout qu'il ne fait plus rien. Et bah, du coup, il a plus rien fait depuis longtemps non plus.
Ouais.
Et il vit avec ses angoisses, ses problèmes médicaux, la rétrospective de son œuvre qui arrive bientôt. Enfin, c'est pas vraiment une rétrospective, mais lors d'un hommage au cinéma espagnol, il y a un de ses films phares qui est présenté. Du coup, il va devoir se rabibocher avec l'acteur qui jouait dedans,
ouais.
Et qui s'était brouillé depuis 30 ans, parce que le gars avait pas joué le personnage comme il l'avait écrit, tu vois.
Okay.
Donc voilà, c'est des petites bisbrouilles qui vont évoluer, qui vont devenir des amitiés, mais bon, pas tout à fait, mais enfin bon, tu vois le bazar.
Je vois très bien.
Des petites embrouilles d'un vieux réalisateur quasiment à la retraite et qui est un peu nostalgique d'une certaine façon.
Bah, ses meilleures années sont derrière lui, quoi.
Ah, ça, c'est clair. Quoique, il va quand même essayer de se remettre au boulot, mais ça va être difficile pour plusieurs raisons que le film explique très bien. Ce qui est assez... enfin, je sais pas si je le dis ou pas, c'est pas un spoiler du tout, mais... si, je peux quand même en parler.
Thanos tue...
Non, Thanos ne tue personne. Pas ici, en tout cas. Mais lors d'une scène, par exemple, il y a... Donc, c'est Antonio Banderas qui joue ce réalisateur. Le personnage est assis à une table avec des grosses lunettes de soleil et une coupe de cheveux un peu en brosse, comme ça, des cheveux assez très poivre et sel. Tu vois.
Oui.
Et quand tu vois ce personnage, tu as l'impression de voir quelqu'un d'autre. Almodovar. Et donc, en fait, ce film est... Je ne vais pas dire qu'il est autobiographique, mais très inspiré de la vie d'Almodovar, en tout cas.
Bah oui, c'est pas étonnant. Hein. C'est aussi un réalisateur qui, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est dans l'industrie. Donc, lui aussi a eu des belles phases dans sa carrière. Et donc, vient un moment où il faut faire le bilan. Et quand on est considéré comme lui, comme un géant, on se dit, OK, bah voilà, la place à quelqu'un d'autre. En plus, quand on voit des jeunes qui arrivent.
Et ce qui est très intéressant aussi ici, c'est qu'il parle un peu de sa vie amoureuse.
Sentimentale.
Et on découvre des choses assez... Enfin, on découvre. On peut découvrir, pour ceux qui ne savent éventuellement
des
pas.
Des histoires de pêche.
Des histoires de pêche, si tu veux, oui. C'est pas tout à fait ça, mais voilà.
OK. Très bien. Quoi, c'est... Elle n'est pas si forte, en plus, cette blague, honnêtement.
Elle est pas mal.
Donc,
tu m'as habitué à tellement pire, c'est pour ça que
ça commence à devenir intelligent. Si je me lève très tôt le matin, donc, du coup, j'ai des esprits, tu vois.
Franchement, que tu fasses des blagues aussi cinéphiles, cinéphiles aussi pointues, ça me...
T'as vu ça ?
C'est bien.
Du coup, Douleur et Gloire, on va pas en dire beaucoup plus. C'est un film qui se déguste, c'est un film qui se regarde, un film qui prend son temps de mettre en place le quotidien de cet homme qui... Aussi, comme tu le dis, entre la douleur et la gloire, je pense que le titre résume bien la situation. Hein. D'un côté, son physique ne tient plus, et d'un côté, il y a toute une gloire passée qui le rattrape, puisqu'on va célébrer la gloire de son film.
Oui. Il y a tout ce côté méta entre ses souvenirs, ses films passés,
j'ai quand même une question.
Ses éventuels projets, etc. Donc, c'est très intéressant.
Ce genre de film, c'est toujours un peu qui tout double. Alors, pour les cinéphiles, ça nous parle, parce qu'on aime bien le cinéma, on connaît tu vois, les réalisateurs, les problèmes qu'ils peuvent avoir dans la conception de certains films, etc., ou dans leur créativité. Mais est-ce que c'est un film, du coup, accessible pour, on va dire, un spectateur lambda qui a envie d'aller se divertir, ou on est plutôt... Enfin, se divertir, vous comprenez ce que je veux dire, ou on est plutôt vraiment dans le truc qui va plaire uniquement aux gens qui sont très cinéphiles, comme toi et moi.
Ah non, du tout. C'est très accessible à tout le monde. Alors, ceux qui ne connaissent pas la filmographie d'Almodovar, ce n'est pas du tout un problème. C'est vraiment très, très facile d'accès. Et ça peut être une bonne porte pour se lancer dans le cinéma d'Almodovar si c'est un cinéma que vous ne connaissez pas. Mais il est évident que si vous connaissez bien son œuvre, vous découvrirez... vous replongerez dans un univers que vous connaissez bien et que vous appréciez sans doute. Parce que comme dans tous les films d'Almodovar, ici c'est très esthétisé,
ouais.
Des couleurs toujours très fortes, très bien choisies. Il y a vraiment un grand, grand sens du détail qui est apporté au décor, au costume, au cadrage. Donc c'est un film d'Almodovar, tu vois le film, tu te dis pas « Ah, ça c'est un film de Spielberg » ou « Non, tu vois que c'est Almodovar ».
Il y a sa patte, clairement.
Ouais, exactement. Et donc, toutes ces raisons-là, pardon, c'est évidemment un plaisir de cinéphile de voir ce Dolor y Gloria. Mais comme je disais, voilà, c'est une œuvre accessible à tout le monde.
À toutes et tous.
Mais oui.
On fait un petit crochet par le Festival de Cannes.
Tu n'oublies pas quelque chose.
La note, bien sûr.
Mais oui, Guillaume.
Je n'allais pas oublier, j'allais te le demander pendant qu'on allait voir la programmation. Non, je mens. Tu m'as pris la main dans le sac. Dis-moi alors, du coup.
Un bon 3 étoiles.
Un bon 3 étoiles pour Douleur et Gloire, c'est noté.
Merci Pedro.
Merci Pedro, qui nous fait toujours rêver.
Oui. J'attendais la suite.
Ouais, en fait, je voulais nouveau faire un truc un peu intelligent, mais l'intelligence a des limites. Donc, la cérémonie d'ouverture a lieu ce mardi 14. Donc, vous allez écouter ce podcast le mercredi 15. Voilà. C'était The Dead Don't Die de Jim Jarmusch.
Que je n'ai pas encore vu.
Que tu n'as pas encore vu. Et puis, le jour suivant, le mercredi, on a Bakuro.
Baccarat,
qui sera le film qui sera toujours montré le soir. En fait, chaque soir, il y a une première. Hein, c'est ouais, un peu comme ça que ça fonctionne.
Ouais,
et la journée, il y a plein de films différents qui passent.
Il y a pas que le soir qu'il y a des premières. Mais,
bien sûr.
Mais oui, il y a...
Le gros du programme, c'est souvent le soir qu'il y a la grosse, enfin le fameux tapis rouge qu'on voit au JT et tout, c'est ça.
Ouais. En général, il y a deux, voire trois tapis rouges par jour. Hein. Là, il y en a un autre, tu vois, à 18h. Les Misérables, c'est aussi un film de la compétition. C'est aussi un tapis rouge.
Tout à fait. On continue. Ça, c'est mercredi 15. Jeudi 16, donc toujours Bacurau. Là, on a Rocketman qui sera montré hors compétition.
Ouais, ça, j'ai hâte. Ça va être compliqué de le voir.
Oui, il n'est pas dans beaucoup de salles. Hein.
Non, il n'y a pas beaucoup de projections du film. Et donc, je pense que ça va être un peu la guerre. Et je pense que s'il y a un film que je dois zapper, ce sera celui-là.
Ah, c'est dommage. Mais oui, ça va être chaud, à mon avis, de voir ce film-là sur le tapis rouge. Parce que là,
je suis pas spécialement fan de
Taron
non de Taron ça va mais de d'Elton John donc je sais où je...
surtout qu'il ne passe pas dans ta salle
sur Elton John ça me...
il ne passe pas dans la salle nocturne la Buñuel où on allait voir des films à minuit très mauvaise idée
parce que... la salle Bazin tu voulais dire tu confonds
ah oui
mais oui
d'accord. Mais donc, quand même, Rocketman le lendemain donc vendredi 17 Rocketman passe quand même le matin
avec Ken Loach boum
ouais. Tout à fait. Ken Loach et puis Rocketman. Quand tu restes dans la salle, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ce jour-là, on a Nicolas Winding Refn hors compétition. Ça, c'est sa fameuse série, si je ne me trompe pas.
Ouais, alors, ça, il y a un truc que je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Ils vont diffuser l'épisode 4 et 5. Voilà.
Voilà. Ce silence en disait pourquoi est-ce que ce mec se fait buter, je ne comprends pas.
Pas
et Dolor et Gloria.
Il y a surtout une séance de Shining remasterisée présentée par Alfonso Cuarón. Ça va être cool.
Ça, c'est.
En fait, c'est ça qui est chiant.
Ça, c'est classique.
Cette année, surtout cette année, c'est que t'as plein de projets un peu cool comme ça, de films qui sont déjà sortis. Enfin, de toute façon, il y en a tout le temps chaque année, mais là, particulièrement quelques séances très sympathiques qui m'intéressent beaucoup.
Particulièrement.
Plus que les nouveaux films. En tout cas, plus que cette série.
Mais Douleur et Gloire, c'est ce jour-là.
Fou un peu, quoi.
Oui, ouais. Bah, c'est, lui aussi, c'est un pote hein, de Thierry.
Bien sûr.
Nicolas.
Bien sûr.
Alors, donc le samedi 18, qu'est-ce qu'il y a le samedi 18
On va pas faire tout le programme.
Non, mais je regardais juste les dates principales. Comme ça, tout le monde peut aller voir sur le site de Ciné News les articles de Thibaut en concordance avec le programme. Parce que tu seras toujours à la page, bien sûr. Chaque jour, il y aura les articles. Ce sera incroyable, vous allez voir.
On va essayer.
Non, la question que je me posais beaucoup, mais je ne sais pas quel jour c'est, je suis en train de chercher comme un imbécile, la fameuse Projo de Tarantino.
Je crois qu'il passe le 20, quelque chose comme ça.
Oui, en fin de festival.
Le 21 même, 21 ou 22. Il passe le 21, tout à fait.
Et le petit Cocorico, le film belge des Dardenne, pardon, des frères Dardenne, passera du coup le lundi, en même temps que Terrence Malick, le lundi 20.
Ouais.
Et donc, je n'ai toujours pas, c'est le 23 alors.
De quoi le 23
Le film de Tarantino.
Le 21, je t'ai dit.
Le 21, ok, j'avais pas vu. Film qu'on attend, ah oui, je le vois, impatiemment, forcément. Ouais.
Mais comme ils ont réduit un peu le nombre de projections presse, en tout cas de projections auxquelles la presse a accès, genre celle de 8h30 dans le Grand Théâtre Lumière, la presse, a priori, n'y a plus accès. Donc, ça va être sportif cette année, mon coco. Je peux te le dire.
Ça va être sympa, même. Comme chaque fois, c'est sympa.
J'espère que j'aurai un meilleur badge. Hein.
Festival de Cannes, c'est. Bah, vu que je suis pas là, sans doute que oui.
J'espère bien.
Tu m'enverras une photo. Alors, ça, c'était le programme vraiment en diagonale. Hein.
En grosse diagonale.
En grosse diagonale. On voulait juste aller voir un petit peu les principales sorties du festival et vous dire quel jour c'était. Alors, on continue avec un deuxième film qui... Changement de sujet, là. Changement d'ambiance. Longshot, Séduis-moi si tu peux. Un film de Jonathan Levin, comme j'avais dit, avec Charlize Theron et Seth Rogen. Seth Rogen, on dirait médicament. Seth Rogen, pardon. Donc, film qui parle de Fred, un journaliste au chômage. On s'imagine bien que ça va être Seth, qui voilà un type un peu en short t-shirt, hein, qui très concrètement, est dans l'entourage de Charlotte. Charlotte, c'est une femme qui, si j'ai bien compris, peut être la prochaine présidente des États-Unis. Donc, c'est quelqu'un de haut, haut profil.
Ouais, elle est style secrétaire d'État, je sais
voilà,
pas quoi.
Voilà, donc c'est House of Cards. C'est la fille dans les petits papiers.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'elle fout avec un mec comme ça ? Lui, du coup, il l'aide un petit peu, sans doute, à écrire des discours ou à apprendre à parler aux jeunes.
C'est ça.
Et très concrètement, ce mec qui, à la base, n'a rien du tout d'un prince charmant pour une femme comme ça, va peut-être se retrouver dans son lit.
C'est, oui, c'est une façon de...
J'ai dit peut-être se retrouver dans son lit.
Oui, oui, c'est une façon
on
de
ne sait pas.
Les choses.
Mais en tout cas, il y a une histoire d'amour qui va se créer suite à leur interaction et à leur rencontre.
Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que la Charlotte en question, c'est l'ancienne babysitter du Fred.
Ah, d'accord.
Ouais, et donc... Comme tous les enfants avec leur babysitter, c'était un peu son
c'est
fantasme.
C'est un fantasme, oui.
Bah oui, bien sûr. Donc,
c'est une catégorie assez recherchée.
Sur Bardoff, c'est Laurent Bardet.
Oui, tout à fait.
Et donc, en fait, ce Fred se fait virer parce que il cherche la merde. Tu sais, c'est un peu le journaliste d'investigation qui creuse là où ça pue, tu vois.
D'accord.
Et donc...
Il travaille chez Mediapart.
On peut dire ça comme ça. Alors,
sauf que c'est Seth Rogen.
Non, mais non, vraiment, en fait, on peut le mettre comme ça. C'est un peu le type qui bosse pour Mediapart, si tu veux, et qui se fait racheter par...
Rolling mettons, Stone.
Par Breitbart, tu vois.
Oui, je vois.
Voilà. D'ailleurs, le patron de ce network américain qui rachète le journal et qui donc vire Fred ressemble étrangement à un certain politicien américain, enfin ex-politicien américain, et patron de, enfin ou créateur ou fondateur de Breitbart. Tu vois, évidemment j'ai oublié son nom là.
Donne-moi la référence, je ne l'ai pas.
Mais je, il était conseiller de Trump, il s'est fait virer comme tous les conseillers de Trump. Mais
il est fired.
Non mais.
Ah là là, je n'ai pas son nom. Dès que tu vas le dire, je vais dire ah oui.
Ben oui, moi aussi. Mais donc voilà, en fait, ce qui est, enfin Steve Bannon, voilà.
Voilà.
Tout dans ce film est un gros fuck à l'Amérique de Trump d'aujourd'hui, en tout cas à la politique de Trump et ce qu'est le monde de la politique et des médias aujourd'hui aux États-Unis.
Oula, c'est une critique déguisée alors parce que c'est
pas du tout déguisé.
Ah bah en tout cas sur ouais. Les posters on n'a pas l'impression, on dirait plutôt que c'est une grosse comédie romantique.
Mais c'est une rom-com, mais il y a un très fort discours politique,
un parti pris
avec des sujets sociétaux qui sont abordés et de belle façon je trouve. Il y a vraiment quelque chose qui est creusé dans le film et qui est fort. C'est pas juste une comédie romantique qui est extrêmement drôle. Franchement, j'ai pas autant rigolé devant une comédie romantique depuis... Ouf ! Mathusalem, hein, fieu ? Non, c'est vraiment très très drôle. Il y a des vannes. Il y a de tout. Il y a sur les nazis, il y a sur les politiciens.
Ça ratisse, là.
Il y a sur les écolos. Il y a vraiment de tout. Il y a des blagues de cul aussi, évidemment.
Forcément.
Tu veux les dire ?
Tu dis, ce qui m'interpelle, c'est que c'est donc une comédie... avec un casting assez comme quand on voit Charlize Theron qui s'attache à un projet avec Seth Rogen, tu te dis tiens, s'ils y vont à deux, c'est qu'il y a matière. Et puis quand tu vois Jonathan Levin qui est quelqu'un qui a fait quand même de la qualité, on s'attend à quelque chose de bon aussi.
Ouais.
Et puis t'as un film de comédie qui fait plus de 2 heures, ça veut dire en général qu'ils sont très confiants, hein, parce qu'en général les comédies c'est 1h20 pour pas saturer le public.
Et ben ils sont très confiants et le résultat est carrément à la hauteur. C'est ça qui est vraiment cool avec ce film, c'est que c'est un film qui est bien plus intelligent et bien plus riche que ce qu'il en a l'air. Et alors faut pas aller pas croire que c'est juste maintenant que j'ai parlé de films un peu politiques, qui critiquent une certaine vision de la politique, une certaine façon de faire de la politique, cette façon d'illustrer le journalisme, etc. C'est pas Les Hommes du Président, quoi. Hein, ça reste une comédie romantique, mais qui est intelligente, qui a un fond, qui aborde ce fond de façon très intelligente, je trouve, par le prisme de l'humour, évidemment. Mais pas que, il y a des choses qui sont plus fines et plus sérieuses. Il y a pas, c'est pas parce que c'est une comédie romantique qu'il y a des sujets dont, à propos desquels on rigole à tout bout de champ. Il y a quand même du sérieux aussi. Mais vraiment, voilà, c'est une excellente balance. Mais ça reste évidemment une comédie romantique avant tout. Parce que, qui réussit parce qu'il y a des super personnages et un super sujet. C'est très bien écrit, il y a des super vannes, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Vraiment, j'ai été très surpris, très agréablement surpris. Le duo Charlize Theron-Seth Rogen, il fonctionne à merveille, ouais. Vraiment. Il y a un décalage total entre ces personnages qui est absolument génial, parce que lui, c'est vraiment le cliché du bobo de gauche. Enfin, bobo, mais pas trop, tu vois. Qui porte des espèces de... Tu sais, les vestes un peu kawaii comme ça, ouais. Avec du mauve et du vert dégueulasse. Là. Tu sais, ouais. les vestes qu'on portait il y a 25 ans et qui reviennent un peu à la mode, va savoir pourquoi.
Hipster, quoi. Vraiment,
très hipster. Très hipster. Et elle, bah, évidemment, je veux dire, elle va se présenter au... Enfin, elle va être candidate à la présidentielle aux États-Unis, donc très carré. Taillé. Bah ouais, avec un tailleur tout le temps, enfin tu vois le genre, quoi.
En fait, c'est un peu comme la série de Bodyguard, mais sauf que on parle pas d'action ici, on parle plutôt de rapprochement par rapport à ces deux personnages, ces deux univers-là décalés.
On peut dire ça comme ça.
Oui, oui. Alors là, c'est grand écart. Du coup, qu'est-ce que tu lui donnes à Longshot, c'est du moins si tu peux, qui apparemment t'a bien plu.
Un bon 3 étoiles aussi.
Un bon 3 étoiles aussi, sinon c'est l'émission. Je sais pas si t'as vu dans l'actualité, pour faire une petite transition, avant de passer à Sunset, le dernier film de la semaine, Disney et Fox, on le sait, ils sont ensemble, hein, on a beaucoup parlé cette année dans Cinécast, mais maintenant on a le planning des nouvelles sorties, en tout cas les futures sorties du groupe, parce qu'on l'appelle un groupe maintenant, hein, parce que c'est aussi simple que ça. Et là on a forcément l'année 2019, on avait déjà un peu couvert tout ça, mais il y a un film qui moi m'interpelle, que j'ai très envie de voir en novembre, qui s'appelle Ford versus Ferrari, un film de la Fox. Sur ces deux géants de l'automobile, moi ça m'intéresse assez. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a les films de 2020, en tout cas une grande partie d'entre eux. Les nouveaux mutants sont poussés en 2020. À mon avis, ce film, ils ne veulent absolument pas qu'il sorte.
Dark Phoenix va arriver.
Oui, Dark Phoenix en parle longtemps. Et Tolkien aussi qui arrive vraiment très bientôt, hein, le 10 mai. C'est fou ça. Ok. Fox Searchlight, le 10 mai. On a Tolkien.
Bah oui, le film sur Tolkien. Ouais.
C'est fou, c'est qui encore qui joue Tolkien?
Je sais plus du tout.
J'ai vu sa tête l'autre jour. C'est pas Kit Harington? Non.
Non, 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 je sais plus du tout, mais je. Ouais. Ok. Il faut que je me remette à la page pour
c'est
ça.
C'est ça. Par contre, 2020, il y a plein de films que je ne connais pas. Tu vois, genre, typiquement Free Guy, Bob's Burger.
Mon Dieu.
Des films qui donnent envie. Mort sur le Nil, bien sûr.
Bon, Jungle Cruise.
Jungle Cruise, il y a des trucs assez sympas.
Ce qui est bien, c'est que déjà à partir de 2020, et c'est encore pire pour 2021 et 2022, ouais. C'est Untitled Marvel Movie ou Untitled Disney Movie.
Il y en a
movie.
Plein. C'est dingue. Il y a Cruella, vieux. Il y a Cruella d'enfer le 23 décembre l'année prochaine.
Mais bon, tout ça pour dire que. À partir de quoi, 2021, Avatar 2,
oui.
Qui a été repoussé, il devait sortir fin 2020.
Tout à fait.
Et nouvelle trilogie Star Wars annoncée, accessoirement.
Nouvelle trilogie Star Wars, tout à fait, nouvelle trilogie, et ils avaient du coup confirmé que celle de Rian Johnson était passée aux oubliettes.
Ah.
Au passage.
Ah, ça j'ai pas...
C'est les deux gars de Game of Thrones qui vont chapeauter celle-ci.
Moi je dis banco.
Ouais, c'est Benioff.
S'ils l'écrivent plutôt comme les 3-4 premières saisons... de Game of Thrones et un peu moins comme la saison actuelle.
Le problème, hein, c'est que c'est pas eux qui ont écrit les 3-4 premières saisons.
Ah non ?
Bah, entre guillemets, il y a eu une grosse différence. Maintenant, les nouvelles saisons, c'est eux qui font. Et celle d'avant, il y avait un plus gros staff et il y avait surtout les bouquins
ouais, bien sûr,
de Martin
bien
sur lesquels ils pouvaient s'appuyer.
Ouais, ouais.
Là, c'est eux qui improvisent et pour l'instant, leur improvisation est un peu plus, on va dire, banale.
On en parle ou on n'en parle pas?
C'est un peu plus cliché. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas.
On n'en parle pas.
Cinéma. Tu veux en parler?
On parle pas de Game of Thrones.
Tu veux parler de Game of Thrones?
Tu sais que je serai à Cannes pour voir les épisodes. Je sais pas comment je vais faire.
Bah, t'as un laptop.
Ouais, ouais. Mais
t'as bon. HBO sur ton laptop. T'as,
ouais,
t'as l'abonnement. Sûr. Bah voilà.
Oui, évidemment.
Voilà.
Non, mais c'est.
Ça va être rude, hein.
Ouais, ça va être difficile.
Ça va être difficile. Donc, très concrètement, on avait une petite discussion sur Game of Thrones avant, mais on va en parler deux secondes.
On aurait dû l'enregistrer parce que c'était intéressant.
Oui, c'est intéressant. Tout ça pour dire que mon point de vue, c'est que. Mais il y a plein de points de vue sur Internet. Hein. Sur YouTube, oui. Ça s'acharne pour l'instant. Mais très concrètement, je trouve en effet que la manière dont ils ferment certaines histoires, c'est très. C'est très direct, très abrupt, mais ça, c'est normal. Ils ont que 6 épisodes, donc ils sont obligés d'avancer vite. Mais je trouve que certains personnages, on les a construits comme étant un sauveur de quelque chose ou un sauveur d'un tel, et puis c'est pas eux finalement qui arrivent à la fin. Je pense particulièrement à Jon Snow qui a fait tout un, il a quand même, c'est le personnage qui a le plus vécu au nord du mur, qui a vécu plein de choses avec les marcheurs. Enfin, c'est toujours lui qui a été en opposition avec le chevalier.
Bah, on va pas se mentir, Daenerys et lui, c'est un peu les deux déceptions de cette saison, quoi.
Pour l'instant, ouais, là, c'est clair qu'il y avait du potentiel de faire quelque chose qui allait péter. Et puis en un coup, c'est un peu blou. Et puis le fait de faire des scènes qui sont parfois inutiles, alors qu'il y a que 6 épisodes, je ne comprends pas. Comment c'est possible d'avoir fait des scènes inutiles alors que tu n'as que 6 épisodes pour clôturer, quoi.
Pas évident.
Toutes les scènes de réunion et de réunion et de réunion, c'est bien, c'est chouette. Mais tu fais moi, ça juste
genre,
pour le pilote, alors pour
le
premier.
C'est le genre de scène que je préfère, quand même.
D'accord, mais tu fais ça dans le premier, réunion, puis on avance, quoi, tu vois.
Ah, dans le dernier épisode, quand tu vois Varys avec... Enfin, le dernier. L'avant-dernier, si vous écoutez cet épisode mercredi, ce qui est le cas. Mais dans l'épisode 4, tu sais, les dialogues entre Varys et Tyrion, c'est, moi, c'est les meilleurs passages.
Ces deux-là sont géniaux, il n'y a pas de problème. Ça, c'est parce que ces deux personnages-là sont vraiment hyper intéressants, sans doute, à écrire. Mais par exemple, le personnage de Bronn qui arrive... qui sort un peu de nulle part, quoi, tu vois. Ouais. Et en un coup...
Mais ils aiment bien les personnages qui sortent de nulle part. Arya...
ça, c'est... c'est encore autre chose. Après Rey dans Star Wars, on a Arya maintenant dans Game of Thrones. Ça, c'est un autre concept.
Ouais.
Après, on va dire qu'on est sexiste et qu'on voudrait que ce soit un mec, mais c'est pas ça, non.
Je ne sais toujours pas d'où elle a sauté. Hein.
Je sais pas, mais c'est assez impressionnant, en tout cas.
À mon avis, elle s'est faite passer pour un White Walker... Puis après, elle a juste fait sauter.
Pauvre Tion, parce que bon, il est quand même mort genre une minute avant qu'elle arrive, quoi.
Ouais, mais il fallait qu'il crève.
Question de timing.
Faut arrêter de tirer sur la corde. Hein.
C'est ça. Ok, bon, allez. On passe au dernier film de la semaine, Sunset. Film du coup qui parle de l'Empire austro-hongrois en 1913.
Ça, c'est vraiment. T'as pas lu le synopsis, t'as juste vu la première phrase et puis. Hop,
ça se passe en tout cas
le truc
en 1913, au cœur de l'Empire austro-hongrois. Je pense que je me trompe pas, c'est la 30e fois que je le dis. Avec des acteurs qu'on connaît tous, hein, Julie Jaka, Vlad Ivanov et Evelyn Dobos. Personnellement, c'est pas gentil de ma part. Mais non, je vais pas prétendre que je connais ce film.
Non.
Peux-tu m'en dire un petit peu plus, Thibaut? En tout cas, j'espère, parce que sinon, on est dans la merde.
Je vais essayer. Ouais, alors comme je disais, c'est le nouveau film de Laszlo Nemes. Peut-être que non. Là, je vais dire peut-être que ce nom dit quelque chose. Il avait réalisé le chef-d'œuvre qui est Le Fils de Saul.
Ah oui.
Voilà. Et donc il est de retour avec son second film qu'on attendait à Cannes l'an dernier. Puis on se demandait, il y est pas. Venise alors. Ouais, il sera à Venise. Effectivement, Venise a pris les films que Cannes n'a pas voulu.
Pas tous. Il y avait quand même First Man et des trucs comme ça.
Oui, mais ça, c'est pas des films que Cannes n'a pas voulu. C'est que les films ne voulaient pas aller à Cannes. C'est pas la même chose. Ça, c'est un film que Cannes n'a pas voulu.
D'accord. Rejected.
Et puis après, tu comprends pourquoi. Alors.
Ah, ça va être court alors, c'est bien.
Non, mais en fait, le problème. Alors, tu avais vu Le Fils de Saul ou tu l'avais...
Je ne l'ai pas vu.
Non, tu ne l'as pas vu.
Mais je vois
dans Le Fils de Saul, il y avait un procédé de mise en scène qui était très surprenant. C'est que tout était filmé dans le dos du personnage principal. Et donc, tu suivais tout le temps ce personnage. Tu voyais tout son point de vue, en fait. Et ça fonctionnait à crever parce que tout se passait dans un camp de concentration. Et donc, ça donnait une ambiance très anxiogène, très, très dure. Et c'était parfait pour le film. C'est une des raisons qui ont fait que le film était si fort et si réussi. Et le truc, c'est que Nemes, il refait un peu la même chose ici pour son histoire de fille qui revient à Budapest après être partie pendant des années. Et elle veut travailler dans le magasin de chapeaux que ses parents avaient avant. Et puis, il va y avoir plein de mystères autour des personnages qu'elle croise. C'est un peu le bordel dans Budapest à ce moment-là. Fin... Et déjà, le scénario n'est pas évident. Mais le problème, c'est que ce procédé de mise en scène ne fonctionne plus du tout dans ce film-ci.
D'accord.
Ce qui était brillant avant, ici, ça devient un des gros défauts du film. Parce que du coup, tu es un peu perdu. Honnêtement, quand on est sorti de la projo et les jours qui suivaient avec les autres critiques, on se disait est-ce qu'on a bien compris ? Parce que déjà, t'es pas sûr d'avoir bien compris. Au final, bon, on pensait quand même tous plus ou moins avoir compris la même chose. Donc voilà, mais c'est pas clair, c'est pas évident, ouais. C'est complexe. Il y a vraiment des personnages qui se croisent, qui se recroisent. Et de par ce procédé de mise en scène, ben, parfois tu le vois juste apparaître dans le cadre, sortir. Enfin, c'est ouais, assez complexe.
C'est très confus.
Ouais, et c'est très confus du coup, exactement. Donc c'est pas. Le problème aussi, c'est que le thème, le sujet n'est pas hyper intéressant, malheureusement. Donc voilà, Nemesis, il s'est un peu foiré pour le coup. Et quand tu sais que bah, Khan avait refusé ce film. Tu comprends pourquoi, malheureusement.
Oui.
Alors, qu'on se le dise, Laszlo Nemes reste un réalisateur, un jeune réalisateur brillant, parce que il croule d'idées. Il y a énormément d'idées de mise en scène, entre autres, mais d'autres aussi. Dans ce film, c'est pas un film dans lequel il y a rien, mais tu vois qu'il essaie d'en faire un peu trop. Il devait... Le problème, c'est que quand tu fais un premier film aussi réussi et aussi marquant que Le Fils de Saul, le deuxième, c'est compliqué, quoi.
Ouais.
Et là, c'était très compliqué.
Il n'y parvient pas. Il n'y parvient pas, ouais. Malheureusement, en reprenant les mêmes ficelles de son film précédent et avec un sujet qui n'aide pas puisque c'est un peu confus et comme tu le dis...
Bah ouais, parce qu'il se repose sur un contexte historique qui est finalement pas... Enfin, si, c'est utilisé dans le film, mais pas tant que ça, en fait. Ça pourrait être autre chose, ça serait la même chose, tu vois.
Donc, d'accord.
Il essaie de jouer avec l'histoire, mais l'histoire n'apporte au finalement pas grand-chose.
Parce que je veux dire, le setup est quand même pas mauvais. Je veux dire, le Budapest, juste avant la guerre...
Il a des décors de fou, hein.
Voilà.
C'est hyper beau. La photo est assez jolie aussi. Il y a clairement du gros travail qui a été fait.
Oui.
Mais malheureusement, le tout ensemble, ça fonctionne... à moitié pour être gentil, voire très très peu.
3 étoiles
pour être un peu plus méchant. 2 de moins, je pense. Hein.
2 de moins. 1 étoile pour Sunset, ouais. Du coup. Ça, c'était un malheureusement. Peu la terminer l'épisode avec une petite note comme ça.
Petite que déception, que veux-tu.
Tout à fait.
J'attendais énormément ce film. Hein, parce que forcément, voilà, Le Fils de Saul, enfin, tous ceux qui l'ont vu, ils t'en sortent pas indemne. C'était de la maestria de mise en scène, ce film. Et voilà, malheureusement, la suite n'est pas du même acabit. Mais ça, c'était prévisible.
On ne peut pas tout réussir, malheureusement. Et puis surtout que le choix de faire le même style de mise en scène pour son film suivant, c'est toujours dangereux parce que les gens vont toujours se rappeler le premier en disant « Tiens, Le Fils de Saul, c'était super, et ça, c'était moins bon. » Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est...
Ça casse ou ça passe.
Hein. Ouais, exactement. C'était Cinécast, saison 2, épisode 29. On a vu du coup 3 films cette semaine, Douleur et Gloire, Longshot et Sunset. Longshot, c'est « Séduis-moi si tu peux ». Des belles surprises dans l'ensemble, oui, à part Sunset qui
c'est
malheureusement
n'a pas
réitéré le charme du film précédent.
Non.
Mais voilà, quand même, Longshot, vous êtes servi, quoi. Il y a un peu tout cette semaine. Et bien sûr, le choix cinéma est toujours aussi vaste avec Nous finirons ensemble, Détective Pikachu et Avengers toujours sur nos écrans. On se dit à la semaine prochaine, du coup, Thibaut.
Bah, à tout de suite pour
nous, mais pour vous la semaine prochaine, parce
oui,
que
la semaine prochaine.
Attention, la semaine prochaine, hein,
on sera là,
que vous sachiez. John Wick 3.
Ah oui, quand même.
Aladdin.
Quand même.
Et le film des frères Darden. Donc voilà le programme de l'épisode de la semaine prochaine, donc soyez au rendez-vous.
Ce sera du lourd.
Oui.
Du très lourd.
Du très lourd.
Du très très lourd.
Du très très lourd.